C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Pierre-Emmanuel Barré.
Oui, bonjour.
Ça va mieux Daniel d'ailleurs?
Oh là, je suis en pleine forme. J'ai eu l'accident hier.
Non.
Si, j'étais
contaminé
au polonium.
Non, c'est une blague?
Non, polonium.
J'espère que t'as une chute hein, pour ta vanne.
Non, sérieux.
Je croyais que c'était une intoxication alimentaire.
Non, il a couché avec Natacha Polony. C'est tout pour moi, j'arrive. Bonne journée.
Merci, au revoir. Tout à l'heure, nous aurons en live Saul et notre invité, Hubert Reeves.
Non. Merci. Hubert, quel album. C'est titre incroyable.
Nous sommes ravis de vous accueillir. Hubert, la première question, évidemment, est de savoir si vous allez bien.
Tout va très bien, parfait.
Madame la Marquise, d'accord. Madame C'était un peu sur l'air de Madame la Marquise, c'est pour ça que je dis ça.
C'était le début.
Vous signez un nouveau livre qui s'appelle « J'ai vu une fleur sauvage au seuil ». J'espère, Tom Villa, je suis très inquiet, je vous préviens, Hubert. Est-ce que vous avez bien compris la raison pour laquelle nous avons invité Hubert Reeves?
On me mettait dans le caca, Nagui, putain. Non, parce que j'ai pas l'habitude de raconter la tambouille interne, mais je vous l'ai dit depuis le début de l'année, quand vous envoyez le mail à tout le monde avec les invités, vous mettez que les noms. Le Louche, lundi, déjà, c'était la merde. Entre Claude, Gilles, Philippe et Sarah, c'était limite. Hier, l'ami, alors je me doutais que c'était pas André, hein, ça aurait pu être Audrey. Heureusement, c'est Alexandra, mais la Reeves...
Heureusement, sympa pour Audrey.
Non, ouais. Mais on s'en fout. Ouais. Bref, on avance, sinon on perd du temps dans la chronique. Vous cassez le rythme, Nagui. Mais la Reeves, bah, bon, j'ai compris que ça serait pas Christopher pour des raisons évidentes
de décès,
évidemment. oui, mais moi, je suis parti sur Keanu Reeves. Parce qu'il y avait, il y avait John Wick 2 là qui est sorti. Bah oui, bah excusez-moi, il vient de sortir. Voilà. Bah, non, mais je vous le dis, c'est pénible. Tu bosses, et puis au final, t'es à côté de la plaque. Je suis pas Nicolas Dupont-Aignan.
Je comprends.
Ça commence à être pénible. Hein.
Filez
les bonnes infos aux gens. Déjà que vous donnez pas toutes les paroles aux chanteurs sur France 2, ça devient pénible, ce je m'en fous. Voilà. Du coup, je me suis refadé les trois Matrix pour rien. Merci Nagui. Donc, Hubert Reeves, bonjour.
Bonjour.
Voilà.
Vous avez rien préparé du tout.
Bah non, mais du coup, ça décale tout parce que si je vous parle de Point Break, pour nous évoquer un souvenir.
Ça ne dit rien du tout.
Voilà. Vous l'avez peut-être acheté en DVD.
Pardon.
Vous l'avez acheté peut-être en DVD ou en VHS ou non plus.
Rien
voilà.
Du tout. Super 8.
Donc du coup, bah, est-ce que vous pouvez me présenter Monsieur Reeves?
Hubert Reeves est un astrophysicien et aussi herboriste et passionné par aussi bien les étoiles que la Terre.
Voilà, en plus, le mec a bac plus 38. Très bien. Est-ce que j'ai des blagues sur un astrophysicien? Oui, c'est un astéroïde et une pute qui.
Quoi?
Non, ok, d'accord. Il vient pourquoi Hubert Reeves?
Pour un livre qui s'appelle J'ai vu une fleur sauvage au seuil.
Oui, alors, le prenez pas mal. Moi aussi, j'en ai pas fait un bouquin. Hein. Donc, voilà. Non, mais après, c'est chouette qu'il y ait des gens avec un QI décent qui acceptent de venir dans cette émission. Mais je vous le dis, Hubert, vous êtes beaucoup trop intelligent pour nous.
C'est vrai.
Même nous cinq réunis, on n'a pas votre savoir, notre intelligence. Ouais. J'ai vu une fleur sauvage. Non, c'est bien comme petit Dolly, mais c'est bizarre. On dirait un secret un peu pourri d'un candidat de Secret Story. Tu sais, j'ai vu une fleur sauvage, un jour je me suis baladé à la mer, je sais faire une phrase sans faute de syntaxe, voilà. Je vais arrêter là parce que ça commence un peu à être compliqué de parler de Secret Story devant Hubert Reeves.
On sent solitude.
Oui, c'est ça, voilà. Donc, du coup, je vais faire la fin de ma chronique initialement prévue pour Keanu Reeves. Je vous ai adoré dans Speed, voilà, quand vous arrêtez ce bus à main nue, c'est extraordinaire, avec Sandra Bullock. Vous avez été brillant aussi avec Al Pacino dans L'Associé du Diable. Et si vous pouvez me dédicacer mon DVD, c'est pour mon papa qui est fan de vous. Vous mettez que le nom. Non, il se rendra compte de rien. Voilà, bonne journée à tous.
Quelle honte.
Mais non,
Tom, merci Tom.
La boule originale, Nagui, sur France Inter.
C'est de votre faute, Nagui. Mettez bien dans les mails les noms.
Tout est de ma faute. C'est Hubert Reeves. Et je suis, je vous le dis sincèrement, on s'est déjà rencontrés, mais je suis toujours ému. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire, évidemment, je peux dire je suis content, on peut dire que c'est passionnant, on peut dire que c'est formidable, mais ce que je ressens bien plus que tout ça, c'est de l'émotion. Voilà, je ne sais pas pourquoi, Leïla,
Tu veux que j'explique pourquoi Mais
parce que c'est Hubert Reeves.
Non, parce que vous êtes une figure très importante. Moi aussi, je suis ravie. C'est la première fois qu'on se rencontre. Vous avez beaucoup œuvré pour. Vous êtes un grand passeur, en fait. Vous expliquez la science, qui est quand même un domaine qui est difficile d'accès pour beaucoup, avec le sourire, avec une pédagogie qui fait de vous un des pionniers dans ce domaine-là.
Du partage, du bon sens. Mmh.
de toutes ces bonnes paroles.
Non, et puis vous incarnez tout ce qu'il y a de bon dans la vie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre d'où l'on vient, pourquoi on est là, comment y rester aussi un tout petit peu, parce que la biodiversité devient quelque chose d'essentiel. Vous avez tiré quelques sonnettes d'alarme sur notre planète, et c'est à croire que d'ailleurs les grands de ce monde ne vous ont pas forcément écouté. Quoique, d'ailleurs, vous nous direz si vous avez le sentiment d'être entendu ou pas. Bref, vous avez la tête dans les étoiles, mais vous avez aussi les pieds sur terre et vous êtes intéressé à votre jardin de Malicorne. Malicorne étant votre maison de campagne que vous partagez avec votre épouse Camille. Le vrai titre du livre pourrait être « J'ai vu une fleur sauvage, quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle ».
Voilà, c'est un haïku japonais qu'on a choisi comme titre du livre.
Et alors, en quoi c'est encore plus intéressant et plus beau de connaître le nom des fleurs et leur histoire ?
Si c'est des fleurs, il y a des fleurs, c'est hors de vous. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas vraiment de contact émotif, il n'y a pas tout ce qui s'appelle s'approprier la nature, avoir du plaisir à la voir, retrouver une fleur que vous connaissez au printemps. Ah, revoilà les Véroniques, ou voilà les n'importe quelle fleur. Eh bien, c'est important, c'est un plaisir. C'est un peu une éducation du plaisir. Les plaisirs que vous pouvez avoir qui coûtent rien, que vous pouvez avoir vous entrez en contact, quand vous connaissez bien la nature, quand vous reconnaissez les chants des oiseaux, quand vous retrouvez le nom des fleurs, c'est ça l'idée. C'est que c'est une époque de morosité, vous le savez. Les gens sont tristes, sont déprimés. Donc il faut leur apprendre à cultiver des sources de plaisir comme celle-là, c'est-à-dire des merveilles extraordinaires que sont ces petites fleurs sur lesquelles vous marchez, vous pouvez marcher toute votre vie sans jamais les voir si on ne vous les présente pas. Il s'agit de présenter les fleurs comme on présente des amis. Vous présentez, vous dites, tiens, toi, tu seras content de rencontrer telle personne, tu vas bien, vous allez bien ensemble, ça sera pour vous intéressant et important. Eh bien, c'est de faire la même chose avec tout ce qu'il y a dans la nature de beau et qui nous touche quand on y porte son attention. Il faut évidemment qu'à un moment donné, on se dise « je vais porter mon attention vers cela, je vais essayer de m'approprier, d'apprivoiser cela ». Comme dit le petit prince dans le Saint-Exupéry.
Il y a évidemment connaître son nom, il y a aussi connaître ses vertus, connaître son histoire, savoir que ce n'est pas simplement une fleur de plus. Il y en a des, il y a des centaines,
il y en a la des diversité. Centaines de milliers sur la Terre.
Vous avez fait un choix et vous avez voulu aussi rétablir certaines vérités sur des plantes, sur ce qu'elles pouvaient apporter, sur la pollinisation des fleurs. Aussi de l'importance de la diversité, de la biodiversité.
Exactement. C'est de se mettre en contact avec la nature dont nous sommes proches, mais dans la vie moderne, on en est découpé. On voit les voitures au travers des fenêtres, les fleurs au travers des fenêtres de nos voitures, voyez. On passe comme ça. S'y intéresser, c'est quelque chose de très agréable.
Et toutes les plantes pour vous sont importantes, que ce soit les ronces, que l'on essaie d'éviter pour ne pas avoir mal
Donnent des murs. Quand vous trouvez des murs,
ça fleurit, ça
à l'automne,
des murs.
Et des vous baies. Êtes content. Mmh. Oui, c'est ça. C'est tout ce contact avec la nature dont la vie moderne nous coupe. Et c'est intéressant de le retrouver.
J'ai appris des tonnes de trucs, évidemment, dans ce livre, cet herbier de Malicorne. Notamment les idées. Si tu veux tousser, tu sors un peu. Tu vas pas tousser trois plombes, là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu tousses, surtout?
Qu'est-ce qu'il faut prendre comme fleur pour moins tousser?
Oui, c'est ça.
Il y a un secret?
Je suis pas très fort sur la médecine de la pharmacopée. C'est pas le sujet qui m'intéressait. C'était plutôt de les rendre accessibles et amicales. C'est une question de créer des liens d'amitié.
Comme par exemple le lierre. Le lierre, ceux qui ont des maisons s'inquiètent du lierre grimpant parce que ça peut décoller le toit, repousser les tuiles, créer des fuites. Des jardiniers disent même que le lierre qui envahit un tronc d'arbre va étouffer cet arbre et le tuer. Et là, justement, vous expliquez que ça n'a rien
Absolument.
À voir. Et c'est même
plutôt,
très important de laisser le lierre
protecteur.
Vivre. Voilà.
Exactement.
Alors protecteur, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent se nourrir à l'intérieur, il y a des chouettes ou des hiboux.
Oui, et puis ils fleurissent, ce lierre grimpant fleurissent à la fin de l'été, quand il n'y a plus de fleurs, pour quand il n'y a plus de nourriture, de baies pour les oiseaux. C'est vraiment ce qui sauve les oiseaux à la fin de l'été, ce sont les baies qui poussent sur les lierres.
Donc à tous les jardiniers, évitez de couper le lierre.
Si vous êtes plutôt chanceux, comptez-vous chanceux d'en avoir.
D'en avoir, ça permet à des oiseaux migrateurs d'avoir quelque chose à grignoter quand ils viennent.
Exactement.
Autre, vous tordez le cou aussi au tournesol.
Au tournesol, bah oui, moi aussi.
Dingue,
j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça toute petite, que le tournesol...
Qui s'appelait comme ça?
Ben voilà, suivez la course diurne du soleil.
Oui.
Or, c'est pas exactement le cas, mais d'autres plantes, en revanche, ont cette capacité-là.
Voilà, les tournesols tournent quand ils sont très jeunes. Mm-hmm. Mais quand vous les voyez dans les champs, ils tournent absolument pas. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous verrez qu'ils sont tous tournés vers
le soleil levant.
Mm-hmm. Ils bougent pas de la journée. Et d'ailleurs, avec les troncs, comme vous savez, ils ont des troncs assez costauds. Vous imaginez pas qu'ils puissent... Mais il y a d'autres fleurs, par exemple les liserons. Eux qui tout, vous pouvez les voir. C'est cette chose intéressante de voir dans la journée comment les fleurs tournent. Vous voyez, c'est une sorte de plaisir à se sentir dans la nature, à regarder la nature.
Les héliotropes. En plus, on apprend plein de vocabulaire. Moi, je suis assez fascinée.
Et puis, il y a des très belles photos.
Hein. Héliotropes.
Mais il y a de très très belles photos, en tout cas, qui donnent envie, c'est vrai, de regarder un peu plus où on marche quand on se promène en campagne. Ouais. Est-ce que vous les avez plantées?
Certaines... C'est des fleurs sauvages.
Mais oui, c'est fleurs sauvages. Mais est-ce que vous aviez envie de les avoir dans votre jardin?
Il y en a que j'ai transplanté, effectivement.
Voilà,
il y en a que j'ai ramené, mais pas de très loin. Les cyclamènes, par exemple. Nos voisins ont une forêt où ils ont des cyclamènes et c'est d'une beauté. Quand arrive le mois d'août, c'est en fleurs roses, rouges. Alors évidemment, je leur ai demandé, ils m'ont donné quelques pieds que j'ai transplantés chez moi.
Vous aimez bien les glycines, les clématites, tout ça.
Magnifique.
Mais tu cherches, Barbara.
C'est mon siège qui est cassé. J'ai un siège cassé.
C'est
plus que c'était français.
Tu ne respectes rien.
Et Hubert, toutes les fleurs ont un nom ou parfois il y a encore des espèces qui
sont... Je pense que les botanistes ont nommé pratiquement toutes les fleurs de la planète. Il en manque peut-être quelque part dans quelques coins perdus, mais depuis Linné au XVIIIe siècle qui avait introduit la notation des fleurs, maintenant vous avez d'énormes bouquins avec des centaines de milliers de fleurs, c'est fantastique. Chaque région a ses fleurs. Nous, on ne parle que des fleurs qui sont dans l'Yonne, c'est-à-dire dans le nord de la Bourgogne, parce que ce sont les seules que nous avons.
Oui, mais vous résumez la planète aussi à... Et tout le monde, c'est ça qui est formidable, tout le monde peut résumer l'histoire de la nature et de la végétation sur Terre avec trois plantes, les fougères, les cônes de pin.
Oui.
C'est ça,
Et les fleurs. Ce sont les trois époques de la vie des plantes dans l'univers.
Oui, mais jusqu'à plusieurs millions d'années.
Ah, mais jusqu'à, oui, ça commence il y a 400 millions d'années.
Pour la fougère?
Pour la fougère, oui, et puis à peu près 300 pour les
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous expliquiez l'intelligence, finalement, de la nature. Cette intelligence-là et là aussi, je l'ai appris dans votre livre, cette intelligence qui fait que des plantes peuvent communiquer entre elles. Mmh. Que lorsque, par exemple, il a une fleur à un incident, elle sécrète comme un parfum ou des particules pour prévenir ses copines un peu plus loin en disant...
C'est ce que font les gazelles en Afrique, par exemple. Les gazelles aiment beaucoup manger des acacias. Quand elle commence à bouffer les feuilles d'acacia, l'acacia se met à émettre des molécules de tanin qui avertit les autres arbres aux alentours.
Il y a de la gazelle dans le coin, attention.
Il y a de la gazelle et elle-même se met à sécréter du tanin. Mais la gazelle qui n'est pas bête, s'il y a du vent, elle va remonter le vent et là, elle sait que les arbres qui sont dans la direction du vent n'ont pas
été prévenus.
N'ont pas eu l'info.
Le message.
C'est génial.
Ah, vous voyez, il y a cette espèce de rapport entre la plante. Oui.
Mais alors, le message, ça veut dire quoi? Parce que si les autres acacias sont avertis, qu'est-ce qu'ils vont faire face à la gazelle?
Ils sécrètent le tanin pour que la gazelle ne les mange pas.
Ne les mange
parce
pas.
Parce que ça devient au goût insupportable.
Oui, voilà. Ça devient très amer et ça dissuade les gazelles. C'est une mode de protection. C'est une mode de protection des acacias. Pour se protéger contre les gazelles.
Et vous avez appris, vous, à l'école, Hubert, les plantes. Moi, j'ai la sensation d'appartenir à une génération totalement inculte en la matière. En matière d'oiseaux, d'arbres,
on
n'a
pas
plantes.
Été élevé avec un herbier, on n'a pas été élevé avec...
Mais il y a des générations qui maîtrisent ça parfaitement. Il suffit de suivre parfois des personnes un peu plus âgées pour l'accueil des champignons qui vous expliquent sur les plantes.
C'est ça.
Et moi,
la véritable école, c'est vos amis, vos parents qui connaissent ça. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît les champignons et c'est lui qui peut vous l'enseigner. C'est beaucoup plus agréable que que de l'apprendre à l'école. Vous allez, on avait un ami généticien au Québec qui nous amenait les enfants dans les bois et qui nous montrait les fleurs et qui nous montrait que telle fleur était utilisée par les Indiens pour telle maladie et tout ça. C'est passionnant, mais ça se fait, on le fait par soi-même. Et ça, il faut décider. Un beau jour, vous vous dites, j'ai envie de ça, c'est ce que j'ai fait. Mm-hmm. Je me suis mis à étudier les oiseaux, à écouter des disques, des CD. Maintenant, je reconnais la plupart des oiseaux de nos campagnes. Mais ça, c'est aussi un grand plaisir. Quand vous êtes dans la nature, vous dites, ah, il y a un rossignol, là. Je vais aller voir. Vous voyez, ça élargit votre contact avec la nature.
Que ce soit des pissenlits, des pâquerettes, des myosotis, tout est dans le livre, les géraniums aussi. Mmh. On a l'impression que c'est d'une banalité sans fin. On se dit, oh, une pâquerette, un géranium. Mais vous employez l'expression, et c'est ça que je trouve extrêmement touchant. J'ai présenté des géraniums à des amis. On est vraiment dans la transmission et dans la compréhension et dans la connaissance les uns des autres. Si vous êtes en train de vous téléphoner les uns les autres aussi, arrêtez. En tout cas, c'est un livre qu'on vous recommande, qui fait du bien. Voilà, qui fait du bien parce que, on se retrouve en contact avec notre planète et surtout on réapprend aussi à respecter cette biodiversité qui vous est chère parce que vous vous battez pour cette biodiversité, vous battez pour que toutes les espèces puissent continuer d'exister, de polliniser, les abeilles aussi. On voit bien que les pesticides utilisés dans nos campagnes pour l'agriculture à haut niveau finalement abîment cette nature, absolument, et c'est pour ça que les abeilles se réfugient sur les toits parisiens. Parce que les ruches, maintenant, les plus fréquentées, sont à Paris.
C'est un point positif. Les villes deviennent des lieux de vie, alors que c'était avant la campagne. Maintenant, la campagne, il y a des problèmes de pesticides un peu partout. Et dans les villes, les gens font des jardins. Nous avons un jardin à la maison. Ça devient des lieux de vie.
Parce qu'il y a moins de pesticides, donc les plantes peuvent plus s'épanouir. Et les oiseaux aussi, et les abeilles
absolument
aussi.
Absolument, il y a des oiseaux qui reviennent. Un jour, j'étais à Clichy, il y avait une fête parce que c'était la première fois qu'on avait vu un papillon dans leur jardin. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a fait comme effort, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, il ne faut pas non plus être pessimiste, on voit revenir des animaux. Par exemple, les loutres reviennent, beaucoup d'animaux, castors.
Et les papillons, vous dites, c'est vraiment essentiel pour la biodiversité, et que même les arbres à papillons attirent moins de papillons.
Peu de castors encore dans le 11e. Ouais.
Non, mais tout à l'heure, j'ai vu une buse dans le couloir. C'est fou, hein.
Mais par rapport au virus aussi, parce que vous avez été un des premiers à alerter face à cette érosion de la biodiversité.
Oui.
Vous avez donné pas mal de conférences sur le sujet. Oui. Et vous expliquez que ça va même plus loin, au-delà de la disparition de certaines espèces. Ça peut être aussi un risque pour l'homme,
oui.
Puisque certaines espèces nous protègent indirectement dans cette grande chaîne face à des virus ou à la prolifération de virus.
Tout à fait.
D'ailleurs, est-ce que
ce sont des vieux équilibres qui ont été rompus par les êtres humains et qu'il faut absolument essayer de reconstituer, sinon nous disparaîtrons.
Et qu'est-ce qu'on voit de façon contemporaine comme apparition, par exemple, de virus ou de choses qui nous mettent en danger qui pourraient être liées à cette érosion de la biodiversité?
Alors, il y a le réchauffement de la planète qui fait que des espèces, par exemple, des virus de malaria qui étaient confinés aux régions tropicales, et aujourd'hui, on voit qu'ils recommencent à monter vers le nord et qu'on les retrouve même dans le sud de la France. Il y a un peu partout une migration comme ça reliée au réchauffement climatique qui monte l'importance aussi de s'opposer et d'arrêter ce réchauffement idiot qu'on est en train d'abîmer notre planète. Le problème, c'est que les êtres humains saccagent leur planète. Mm-hmm. Un peu de mots, on peut le résumer comme ça. Et ça, il faut arrêter ça, parce que notre avenir en dépend.
Et est-ce que vous comprenez l'existence des climato-sceptiques dans ce contexte ?
Je ne comprends pas comment ces gens, voyant toutes les évidences scientifiques multipliées partout, peuvent s'en tenir à cette opinion. Je pense que c'est pour des raisons plus... Par exemple, que les vendeurs de pétrole,
ont un intérêt à...
Voilà. Je crois que ça les arrange, comme on dit, de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas voir ce que tout le monde admet partout sur la planète maintenant. Heureusement, il y en a de moins en moins.
Ça les arrange pour des intérêts personnels, immédiats et financiers, mais pas pour l'intérêt sur des milliards d'années de la planète.
pas pour l'intérêt de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
Est-ce qu'on peut quand même dire que la planète a toujours été plus forte, que la nature l'a toujours emportée, oui. finalement, et que ce soit les océans ou que ce soit la Terre, c'est dame nature est quand même plus forte que la bêtise humaine et que la Terre s'en sortira toujours parce qu'elle évolue, parce qu'elle, malgré toutes les bêtises que l'on peut commettre.
Je pense qu'on peut dire ça, c'est pas la Terre qui est en question, elle va continuer à tourner autour du Soleil, il n'y a pas de problème. C'est pas la vie va continuer, c'est nous, c'est l'espèce humaine, c'est nos enfants, c'est ça. Nous sommes une espèce fragile. Depuis le début de la naissance de la Terre, des millions d'espèces animales sont apparues, des millions d'espèces ont disparu, et les espèces qui disparaissent, c'est simple, c'est celles qui ne savent pas s'adapter, qui ne savent pas vivre en harmonie avec la nature.
Et
sur ce plan,
vivre,
nous sommes les pires.
Toi, un quart d'heure, 20 minutes.
Non, mais Hubert, l'espèce, l'homme devrait disparaître quand, selon vous?
Ah, je ne connais pas l'avenir. Je ne suis même pas sûr qu'il disparaîtra.
Non.
C'est une question. L'avenir est ouvert. Mais nous devons essayer de le gérer pour pas qu'il se détériore.
Mais même si ça se compte en millions d'années, il faut quand même s'en inquiéter aujourd'hui parce que on s'en rend compte, notamment sur des petits détails simples comme le nombre de papillons que nos grands-parents pouvaient voir dans le jardin. Oui. Il y en a moins aujourd'hui. On peut se dire bah tiens, il y a moins de papillons. Ben non, c'est grave parce que ça veut dire qu'il y a moins de pollinisation des
pollinisation. Les vers de terre. Un problème assez grave, c'est les vers de terre. Les vers de terre disparaissent en vitesse. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi s'intéresser aux vers de terre? Parce que c'est eux qui oxygènent les sols. Donc, ils les rendent fertiles. On est en train de stériliser des sols un peu partout sur la planète, alors que les populations augmentent. Dans 50 ans, qu'est-ce qu'on va donner à manger aux gens? Les gens se posent comme ça. On pêche tellement de poissons aujourd'hui, on pêche deux fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit dans l'océan. Quel est le résultat? Ben, alors, on vide les
là,
océans.
Vous allez
on va se retrouver avec des océans sans poissons. Qu'est-ce qu'on va manger?
Vous allez justement dans le sens de ceux qui disent qu'il faut consommer moins de poissons pour protéger la nature et les océans, de ceux qui disent que la surconsommation de viande a totalement anéanti aussi certaines cultures, parce qu'il a fallu préparer des champs et des endroits pour mettre, que ce soit le bétail ou que ce soit les céréales que l'on allait donner à ce bétail, que la biodiversité avait été, parce qu'il y avait des marécages qui avaient été détruits, parce qu'il y avait des batraciens qui avaient disparu pour cette surconsommation. Donc vous êtes plutôt de ceux qui disent qu'il faut manger moins de poissons et moins de viande pour...
Alors, oui, vous avez raison. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait en pratique?
Bah ouais,
alors, ce
au quotidien.
Qui est sûr, c'est que nous mangeons beaucoup trop de viande par rapport aux réserves de possibilité d'avoir de la nourriture pour les animaux. Il va certainement falloir diminuer notre fraction de viande. Ce qui ne veut pas dire tous devenir des végétariens. Moi, j'aime bien la viande, je trouverais dommage. Mais il y a des viandes en particulier qui sont particulièrement nocives à long terme, c'est le bœuf. Le bœuf, alors, si vous voulez choisir des viandes, les poissons, c'est très bien. Les poulets...
Les viandes blanches.
Les viandes maigres. Les viandes blanches.
Donc en fait, il faut les poissons gras, comme le saumon ou le thon, et des viandes maigres, comme le poulet. C'est ça, préconisation.
Oui. Mais en tout cas, ce qui est maintenant dans le collimateur, c'est le bœuf.
C'est le bœuf.
Il paraît que c'est un gaspillage terrible.
Il paraît que la pollution, notamment, et les fameux pets de vache et autres, attaquent la couche d'ozone plus que la pollution des voitures dans le monde. C'est affolant comme constat, ça.
Oui, mais ça, c'est un vieux phénomène. Je veux dire, les vaches, il y en a depuis longtemps, et on avait établi des équilibres. Ce qui s'est passé, c'est que le problème réel commence à peu près à la fin de la guerre, en 1950.
On en élève de plus en plus pour nourrir, justement, et pour pousser à la consommation.
On multiplie le nombre de voitures. On est rendu à des milliards de voitures aujourd'hui. Et on est rendu à des consommations de viande et de nombre de vaches qui pètent, comme vous avez
c'est
dit,
ça, bah oui.
et qui font du méthane.
Et le méthane attaque la couche d'ozone.
On est obligé de gérer tout.
Et le méthane attaque la couche d'ozone,
et
c'est le réchauffement climatique.
Et c'est aussi la couche d'ozone, elle nous protège des rayonnements ultraviolets, maladies de la peau, cancer de la peau.
Ah, ça me déprime.
Mais non, parce que c'est intelligent. C'est intelligent et surtout, on voit qu'il y a encore des possibilités et qu'on a des possibilités d'agir au quotidien.
Absolument.
Et qu'on n'est pas obligé de se laisser faire. Et surtout, quand un ami vient vous présenter d'autres amis, bah, ça part d'un bon sentiment. C'est le cas d'Hubert Reeves avec J'ai vu une fleur sauvage, L'herbier de Malicorne. C'est publié au Seuil. Et c'est un livre qui fait du bien à lire ou à feuilleter parce qu'on peut aussi, comme ça, picorer à droite et à gauche des informations.
C'est fait pour ça.
Bah, c'est intelligemment fait. C'est c'est réussi en tout cas, bravo. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Hubert Reeves dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Hubert Reeves, pardon, je pense à votre figure de savant, c'est-à-dire vous parlez aussi bien des étoiles que des plantes et de la nature dans sa globalité. C'est cette vision-là de la science qu'on avait quelques siècles plus tôt, où on ne distinguait pas les disciplines. Donc c'est un rapport global. Et être un scientifique, c'est avoir fait ses humanités. Et c'est donc aussi être engagé. Et ce qui m'a plu dans votre vie, c'est votre coup de gueule en 97. Alors que vous enseignez à l'Université de Montréal et vous vous êtes insurgé contre les frais de scolarité que vous jugiez beaucoup trop élevés et qui cantonnaient l'accès à la science et donc à la connaissance et à une certaine forme d'humanisme à ceux qui avaient des moyens et qui laissaient sur le bas-côté les autres. Je me demandais pourquoi un tel engagement à ce moment-là de votre vie. Vous enseignez, vous étiez en très belle position, j'imagine que ça ne vous a pas apporté que des compliments autour de vous.
Non, ça a été effectivement assez dur par moment, mais je pensais qu'il fallait le faire. Parce que, bon, il faut faire des économies, les économies vont mal, mais il faut choisir où on fait les économies. Et c'est toujours plus facile de faire des économies avec des gens dont vous savez qu'ils n'ont pas beaucoup de gueule, ni qu'ils ne protestent pas beaucoup. Si les camionneurs sont contre vous, vous n'avez aucun espoir de vous en tirer, ils sont plus forts que vous. Mais les gens qui font de la recherche scientifique, c'est nul comme pouvoir social. J'en dis, bon, qu'est-ce qu'on a besoin d'eux? Mais on s'aperçoit qu'à la longue, c'est tout à fait le contraire. On a besoin d'avoir de l'éducation, des possibilités, d'avoir des compétences, d'avoir des hommes qui ont des métiers, des ingénieurs et tout ça, et que ça se prend au début. Et même souvent, je défends la cause des écoles maternelles. Je crois qu'une des causes les plus importantes aujourd'hui, c'est les maternelles. C'est là que ça se joue, que les enfants vont devenir curieux ou non, qui vont développer leurs capacités. Et c'est tout l'avenir de la société qui se joue avec des petits de 5-6 ans.
Et la personnalité d'un enfant se détermine d'ailleurs dans ses premières années de sa vie.
Exactement.
Dans son rapport à l'éducation, au partage et à la transmission. Oui. Et c'est la première vie en société, l'école aussi.
Oui, oui.
C'est là où fréquenter des enfants qui ne sont pas de la même couleur de peau, des mêmes origines, ou de même langue, leur permet justement d'apprendre qu'il y a une diversité aussi.
D'attraper des maladies aussi.
Et c'est bien aussi d'attraper toutes les maladies quand on est petit pour pas les attraper.
C'est bon d'avoir les avoir quand on est petit.
Voilà.
Dans le sida, par exemple, c'est moyen.
Moi, je les ai maintenant.
Et ce qui est important de préciser, c'est que c'était pas simplement un coup de gueule que vous aviez poussé. Derrière, il y a eu aussi des faits. Vous avez fait un don de 100 000 $ canadiens à l'université Laval, je crois, pour créer un fonds de dotation, Hubert Reeves, pour justement offrir des bourses chaque année à étudiants pour leur donner l'occasion de continuer à travailler, même s'ils n'étaient pas issus de milieux très aisés.
C'est ça, exactement. Je pense que c'était important que tous les gens aient la parité, comme on dit aujourd'hui, tout le monde, qu'il y ait des chances égales.
L'égalité des chances.
C'est ça qui est important, que les chances, que tout le monde qui
liberté,
veut,
liberté,
qui
égalité, fraternité,
reçoive la possibilité de le faire. Parce que si vous n'avez pas un sou, c'est pas sûr que vous allez trouver à aller dans une université convenable.
Et vous, on vous a aidé dans votre parcours?
Oui, tout à fait. Moi-même, j'ai reçu des bourses quand j'étais plus jeune, à un moment donné où je pensais que j'arrivais pas. J'allais étudier aux États-Unis, à l'Université Cornell. J'avais pas d'argent. Et il y a un groupe qui était au Québec à ce moment-là. C'était bien. Il vous proposait, il vous offrait de l'argent sans demander d'intérêt et dire, vous rembourserez quand vous pourrez. Ça, j'ai trouvé ça génial.
Vous avez toujours l'adresse? Parce que moi, ça m'intéresse.
Mais c'est quelques hommes politiques qui l'ont, en tout cas.
En tout cas, c'est aussi important de rappeler que un grand scientifique comme Hubert Reeves a bénéficié de bourses pour accéder à sa connaissance.
J'aurais pas réussi si j'avais.
Et je trouve ça
qu'il a cette reconnaissance là aussi pour dire que pour les générations suivantes, il faut évidemment qu'ils aient aussi cette chance.
Mais le rapport à la bourse, je trouve ça important parce que quand on voit les personnes qui ont réussi, on parle rarement justement des années de formation et des difficultés qu'ils ont eues, et se dire qu'à un moment, et on a une politique gouvernementale en France depuis des générations pas inintéressante de ce point de vue-là, et j'espère qu'elle continuera à donner des coups de pouce à ceux qui ont envie d'avancer et qui peuvent faire de belles choses, et vous en êtes l'incarnation d'une certaine façon.
Hubert Reeves est notre invité jusqu'à 12h30. J'ai vu une fleur sauvage publiée au Seuil. Là, vous êtes des millions à connaître cette chanson. Et Et c'est lui qui l'a créé, cette chanson. Soul est là pour son nouvel album qui s'appelle L'éclaircie. C'est un rayon de soleil en live dans cette bande originale et ça s'appelle Elle, c'est le premier titre. Soul.
Elle sait quand j'ai peur. Elle sait quand j'ai mal. Elle sait même quand je lui tourne le dos. Elle sait. Quand je la trompe, quand s'en va mon souffle. Toucher d'autres bouches, elle sait quand je plonge. Trois dans mes nuits blanches, des avalanches m'arrachent à tes bras. Danse, danse, m'arrache à tes bras. Je vais et je plonge.
bien de faire tout ce bruit.
Moi fort.
C'était saluons quand même Papé qui était à la batterie et aux percussions, Jug à la guitare et Soul évidemment, guitare et voix Soul qui va venir nous rejoindre sur cet album. Il y a donc ce titre LC. Ah, ça fonctionne pas, ça va être très pratique pour la suite. Si, quand c'est ouvert, ça marche. Je t'en prie.
Assez quand je pleure. Et quand je m'écarte. Chaque fois que je glisse entre.
On s'en rend pas compte sur ce morceau, mais bienvenue déjà dans cette émission.
Merci. Merci.
Mais il y a plus de cordes et plus de cuivre, ouais, sur cet album. Vous avez beaucoup mouliné dans votre tête en sortant de Dusty Man et de l'album géant pour arriver à cette éclaircie.
Ah bah carrément, ouais. Ça a été un moment un peu bizarre parce qu'effectivement, comme je l'ai dit sur l'album précédent, le Dusty Man a été un pur accident. C'est un morceau que j'ai écrit à la fin du processus d'écriture. On avait bouclé l'album avec Charlie qui avait produit l'album et je lui ai dit tiens, pour rigoler, on va faire un morceau en plus. Donc c'est vraiment un morceau comme tous les
un accident de la vie.
Voilà, il y a beaucoup de tubes. J'ai remarqué après ça qui sont nés comme ça. Et donc c'est vrai qu'après on se dit bon alors j'ai fait un truc sur un accident. Comment j'écris la suite? Je vais renverser des verres d'eau, des bouteilles. Mais...
Il y a une bêtise à cambrer. Il y a un effet presque dépression post-natale,
ouais,
quoi,
c'est-à-dire bah oui.
après l'énorme succès de Dusty Man, vous êtes posé donc des questions, mais qui n'étaient pas que des questions artistiques et musicales, ça devenait même un problème perso.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu la bonne crise de la quarantaine qui t'arrive en pleine tronche, et donc
vous
voilà.
Ne le faites pas.
Pourvu que ça dure, comme disait l'autre, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, tout ça mélangé, ça a été un bon gros marasme. Et puis, effectivement, l'éclaircie porte assez bien son nom parce que
elle est venue d'où alors?
Elle est venue d'une réflexion en fait. C'est-à-dire que à ça s'ajoutaient comme vous les attentats qui nous ont touchés et tout. Et puis
en France comme en Belgique.
Voilà. Et puis le surréalisme pour le coup, pas seulement en belge, mais d'aller conduire ses enfants à l'école avec des militaires. Et il y avait un truc fou quoi. Et je rentrais chez moi, je disais mais qu'est-ce que tu veux que je prenne ma guitare maintenant et que je compose des chansons? J'ai pas le goût, j'ai pas l'envie. Et ce qui m'est revenu comme une réponse, c'était je pense que les gens ont besoin d'éclaircies.
Absolument.
Moi j'en avais besoin, ouais. Je pense que les gens aussi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né cet album.
Ouais, c'est plus calme là. C'est moins violent au niveau de la batterie. Il y a un côté très peace and love et fleuri d'ailleurs. Il y a une fleur, clin d'œil à Uber Eats, mais il y a une fleur des champs comme ça, une fleur sauvage que vous mettez dans l'œil. C'est un retour aux fondamentaux, cet album pour vous?
Je pense. C'est vrai que à la base Soul en fait est né comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans je faisais plutôt du rock, on l'a entendu, mais et j'ai eu envie de prendre des guitares boisées, d'où Soul,
ouais.
Et de mettre à écrire des comme des comptines en fait, comme des petites histoires, des instantanées de 2-3 minutes. Et mon premier album c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs on m'appelait chansonnier à l'époque, et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'avais vraiment envie de revenir parce que j'avais envie de revenir un peu à ce côté raconteur d'histoire. Et sur cet album là il y a vraiment chaque chanson est une micro-histoire en fait. Voilà.
On va encore écouter un tout petit peu l'éclaircie. C'est une musique de pub ça, non? Ah merde.
On le voit le Renault Espace hein, sur la...
Non, je sais pas, vous dites, des ballons qui s'envolent avec telle assurance peut vous aider, je sais pas, il y a un truc très peace and love et très serein, ouais. En fait.
C'est vraiment la réponse, c'est ce que j'expliquais.
Ça marche. Et puis comme souvent dans les maisons de disques, les managers et autres producteurs vous disent, ça serait bien de faire un tube comme Dusty Man, ça serait bien de faire une chanson comme Ed Sheeran, ça serait bien de faire un truc comme, et ben la vanne est allée jusqu'au bout, c'est Soul a fait comme.
Autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois, je le réponds simplement, come to my world. Sinon on devait s'habiller, sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je sembler, come to my world.
Avec cette vanne et ce jeu de mots entre le com français et le com anglais, j'ai pas envie de faire comme les autres, j'ai envie que vous veniez à moi, donc comme dans mon monde, dans ma musique, et ça marche. Cet album contient beaucoup de titres qui sont très intimes, finalement, ouais. Si on fait attention au texte, ouais. Et vous cachez ça derrière des mélodies faites pour danser, chanter.
Bah ouais, parce que je me suis vraiment rendu compte, en tout cas, j'ai besoin de me faire des paris à moi-même, et c'est vrai que sur ce disque-ci, j'avais besoin de me dire, allez, essaye encore d'enlever le plus possible de filtres dans l'écriture, c'est-à-dire faire quelque chose qui vraiment me colle à l'écorce, j'allais dire. Mais c'est
très exhibitionniste, c'est presque indécent.
Mais il y a beaucoup de chansons, si on remonte même à Gainsbourg, à Brel, plus je trouve un artiste se livre et plus généralement il livre ses plus belles chansons.
Bah, ça va être difficile d'ailleurs.
Ouais. Ne me quitte pas de Brel était non seulement, parce qu'il avait dit que cette chanson était sur la lâcheté masculine, mais c'était pour rattraper sa femme qui l'avait quitté et qui l'avait trompé.
C'était d'une impudeur.
C'était totalement. Oui, c'est ça. C'était impudique, mais c'est ça qui était émouvant et qui nous parlait. Vous êtes en tournée, Soul, le 25 mars prochain aux Portes Les Valences. Ça sera au Train Théâtre. Le 4 mai à Saint-Herblain, au Zénith de Nantes. Le 5 mai, le lendemain, à Talence, Médoquine, Bordeaux. Et le 21 octobre prochain à Anzin, au Théâtre Municipal d'Anzin. Et j'imagine que d'ici là, il y aura d'autres dates rajoutées.
Yes.
Et puis surtout, vous allez revenir dans cette émission, notamment pour nous offrir justement la Javanaise de Gainsbourg et un autre extrait de votre album. Ça sera The Love Song. Les Beatles sont passés par là. Beatles, Tears for Fears, Soul, tout ça. Non, mais ça colle.
Compagnie créole,
beaucoup. Ouais. Beaucoup,
un petit truc de zouk derrière là.
Merci.
Au bal masqué, surtout.
Non, c'est pas là-dedans.
Le premier, Nagui.
Tikaligata, évidemment. C'est lui qui l'a créé.
Je l'ai entendu.
Merci, Soul. À tout à l'heure. Et encore bravo pour cet album. Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Hubert Reeves signe « J'ai vu une fleur sauvage, l'herbier de Malicorne au seuil ». C'est vrai qu'un astrophysicien qui, comme on l'imagine, a toujours le regard porté vers le ciel, qui baisse son menton pour regarder sur quoi il marche, ça vous a pris quand ? Ça a toujours été le cas ? Vous avez toujours eu autant d'admiration pour les planètes que pour la biodiversité ?
C'est juste un torticolis qui vous a fait baisser les yeux.
Ça, c'est ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui était jardinière, qui faisait des jardins, qui proposait aux enfants de venir planter des carottes. Mes carottes sont plus belles que les tiennes, etc. J'ai toujours vécu au Canada dans cette tradition d'aimer la nature.
Mais au Canada, on pouvait avoir un potager, ou étant donné le climat, c'est plutôt rare, un potager au Canada.
Ne vous inquiétez pas. Pas dans le nord du Canada, mais dans le sud du Canada.
Oui, mais le sud du Canada reste le nord des États-Unis. Je veux dire, il fait froid quand même au Canada.
Il est fort géo, le gars.
Non, c'est pas ça. Non, ce que je veux dire.
Mais c'est très beau en été au Canada.
Alors, chaud, oui, insupportable. Oui, mais pour y avoir vécu au Québec un tout petit peu, le mois de décembre dure 6 mois.
L'hiver est long.
Voilà.
C'est ça. On a hâte que ça se termine.
On est d'accord.
Absolument.
On parle du même Québec. On est d'accord.
Oui, tout à fait.
On va justement voir qui vous a initié, comment vous êtes initié aux sciences, notamment avec votre bande originale, mais ça sera évidemment après l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret.
Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est, plein de chats malhonnêtes qui se réunissent pour décider comment ils vont arnaquer les autres chats? C'est le conseil des ministres. 1-0 pour les mots. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Elysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France. Mais après, il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France. Sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande.
Oh, mais non.
Tenez bon, Hubert Reeves, il n'y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats. Mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président ? Pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez, c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien, hein, président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Eh, autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. Ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques, il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors, on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf, eh, c'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. Eh, on met les candidats en ligne et blaah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Et, il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie, il avait une chance de gagner. Mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat. Il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus. Ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. Hein, c'est simple. Quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était à quoi boulevard au siège du FN. Ils ont été obligés de mettre des panneaux sol glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Ah, je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Ben, il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf! Une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein? C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minc, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Val s'y trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il n'aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Hein. Pardon, je suis énervé. Ah, je suis énervé, mais c'est quand même incroyable.
Ça se voit pas du
tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, et ben la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Donc les fleurs.
Le conseil des ministres.
Dites-le avec des fleurs. Je suis désolé, Hubert Reeves. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Sans parler de politique franco-française, je ne sais pas si elle vous intéresse, cette politique française. Est-ce que Justin Trudeau, lui, vous intéresse? Est-ce que vous l'avez rencontré? Parce que il
j'ai rencontré son père.
Pierre Elliott.
Oui, je connaissais bien Pierre Elliott, oui.
Mais lui, vous ne l'avez pas rencontré. C'est-à-dire, la politique canadienne vous intéresse?
Si, mais ça m'intéresse, bien sûr.
Est-ce que vous allez voir les politiques, justement, pour pousser des cris d'alarme et leur demander que dans leur programme, quelle que soit la couleur politique, que dans leur programme, ils prennent en compte la biodiversité?
Oui, bien, on l'a fait. Bon, je suis dans une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et c'est un peu notre tâche. Nous avons rencontré Sarkozy, nous avons rencontré la plupart. Parle Ségolène Royal, on la voit souvent, on a beaucoup aidé à la promotion de ce mouvement de l'Agence pour la biodiversité. Donc, c'est notre tâche.
Et la création d'océans de biodiversité, c'est ça?
Oui.
Ou d'oasis, pardon, je dis océans.
Des oasis naturelles.
Ouais.
Notre tâche, c'est de rappeler, on ne veut pas être en politique, on ne veut pas être de gauche ou de droite, on trouve que ces problèmes sont trop sérieux pour être laissés au clivage gauche-droite.
Mais est-ce que là, vous les avez rencontrés, les candidats à la présidentielle?
Macron,
déjà
oui, nous avons rencontré récemment Macron, qui nous a expliqué.
Et vous étiez en classe avec sa femme? Non,
pardon. Et il habite où?
Non, attendez, deux secondes. Vous pouvez juste laisser finir Hubert Reeves, s'il vous plaît. Voilà, vous avez eu votre temps de parole. Respectons ce que vous disiez, pardon.
Ben, je disais qu'on a pu rencontrer Macron et lui demander des questions au sujet de la Guyane, au sujet de l'aéroport, au sujet du nucléaire. Mm-hmm. Bon, il se défend assez bien. Moi, j'ai trouvé que ça paraissait assez crédible. Vous ne savez jamais s'ils sont vraiment très habiles. Ou très...
Voilà.
C'est la question qui se pose.
C'est une période de promesses. Est-ce que vous êtes allé voir les autres candidats Mélenchon, Hamon, Le Pen,
Fillon. On a voulu le faire et... Ça n'a pas marché.
Ils n'ont pas voulu vous écouter ?
Non, ça a été un peu plus compliqué que ça.
D'accord. Voici le retour de Soul en live avec la Javanaise, comme prévu, une reprise de ce titre de Gainsbourg. Soul !
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu, mon amour? De vous à moi, vous m'avez su, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. D'être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
La douce voix de Soul sur la javanaise. Merci. Soul, son album, il y a comme.
Autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois. Je le réponds simplement comme to my world.
Il y a également l'éclaircie. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner une date importante, puisque c'est le 25 mai qu'il sera en concert à Lille. Également, je le rappelle, le 25 mars de cette année à Porte-les-Valences, le 4 mai à Saint-Herblain, Zénith de Nantes, le 5 mai à Talence, du côté de Bordeaux. Hubert Reeves est notre invité jusqu'à midi et demi. J'ai vu une fleur sauvage, un livre passionnant, enrichissant de transmission, de pédagogie, d'intelligence et de bien-être et de bonheur. C'est publié au Seuil. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudet.
Bonjour à tous.
Pierre-Emmanuel Barré. Tom Villa.
Bonjour.
Daniel
Morin. Bonjour.
Charles Racket au clavier. Tout à l'heure, nous aurons en live Soul qui reviendra et notre invité, monsieur Hubert Reeves.
Ah oui.
J'ai vu une fleur sauvage, votre herbier de Malicorne. Toutes ces herbes, toutes ces plantes, vous les avez dans votre maison de campagne, tellement il y en a.
Oui, ils sont là, présentes. C'est des fleurs sauvages. On les observe dans le jardin, dans la prairie. Tout,
oui, mais il y a une telle diversité que je me demandais si vous n'aviez pas cherché d'autres.
Non, ils sont toutes là. Il y en a encore beaucoup d'autres. On pense justement enrichir avec le temps cette collection, mais on en a déjà 43 fleurs sauvages que vous trouvez. Vous n'avez même pas besoin de les cultiver. Elles sont là.
Et les photos, c'est vous qui les avez prises ?
C'est une amie à moi, qui est D'accord. Patricia Aubertin, qui on a pris des milliers de photos de la plante tout au long de sa vie, à partir du printemps jusqu'à l'automne, de loin, de près, pour que les gens vraiment les voient très bien, les connaissent partout, comme s'ils se penchaient, s'ils se mettaient à genoux par terre pour la regarder avec une loupe.
Et c'est important, par exemple, pour la reine des prés, l'aspirine végétale, vous expliquez bien à quoi elle sert. On voit, en effet, dans le livre, les photos, parce que moi, je peux reconnaître une plante à une certaine saison, mais une autre, elle change énormément.
Exactement.
Et là, c'est très instructif, de ce point de vue-là.
C'est le but. Généralement, dans les livres de botanique, vous avez une photo d'une plante. Et quand vous la voyez, c'est pas du tout la même chose.
Un instant T.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Mais là, on en a mis 10, 20, quelquefois 30 photos d'une seule plante tout au long de son parcours. Donc quand on les a vues, eh bien, on la reconnaît du coup.
Elles sont source de vie, elles sont source aussi de santé. Est-ce que vous êtes pour les soins par les plantes aussi ?
Bien sûr, c'est fondamental. Justement, d'ailleurs, même dans les pharmacies, tout ce que vous avez dans les pharmacies, la plupart du temps, c'est ça provient, Madame l'a dit tout à l'heure, l'aspirine, c'est l'aspirer. Oui. C'est en faisant des décoctions de spirée et aussi de saule, les deux sont utilisés, qu'on a découvert que ça enlevait le mal de tête. C'est vraiment un médicament universel.
On va le dire à Saul, ça enlève le mal de tête. Il va être content. Il va être content. Vous, évidemment, vous analysez aussi le comportement des planètes. Vous revenez un tout petit peu dans l'histoire de notre galaxie, la manière dont elle était une espèce de masse tellement lourde qu'elle a fini par s'affaisser, s'écrouler, c'est ça ?
Oui, s'effondrer.
Et que les planètes se sont entrechoquées les unes aux autres.
Oui.
Et continuer de raconter la manière dont les planètes, en se tapant les unes contre les autres, ont changé leur axe
de
rotation.
C'est le début du système solaire, c'est une grande masse de gaz et de poussière qui s'accumule et qui forme des morceaux, d'abord des petits morceaux qui se choquent entre eux, et puis certains prennent tout parce qu'ils sont plus gras. Et deviennent des planètes. Et ces planètes-là se frappent à l'occasion, comme les autotamponneuses. C'est un peu l'image des autotamponneuses. Et puis, par exemple, notre Terre a été frappée par une énorme planète qui a fabriqué la Lune, qui en a arraché un morceau. La Lune vient de là et qui a laissé notre planète inclinée sur son axe.
De 23,4 degrés.
Bravo.
C'est ça, j'ai bien retenu dans votre livre.
Bravo.
Et c'est grâce à cette inclinaison que nous avons
des saisons.
C'est ça qui
c'est comme ça, à cause de ça que les fleurs reviennent au printemps, que l'hiver revient. Ça vient de cet accident qui s'est passé quand la Terre avait...
Donc il n'y aurait pas eu l'accident, ça serait toujours l'été ? On serait à la même température tout le temps en permanence ?
Oui, exactement. On aurait une planète où il ferait très chaud toute l'année à l'équateur. Le pôle serait gelé, bien sûr. Mais grâce à cela, nous avons cette possibilité d'avoir des saisons. Les différentes planètes ont des variations comme ça. Chacune a été un peu bousculée dans sa jeunesse.
Enfin, vous comprenez à quel point c'est passionnant. Et c'est raconté comme ça. C'est-à-dire, c'est avec une pédagogie, une intelligence de la transmission qui fait que c'est abordable. Il y a une grande part de poésie aussi et de rêve dans la manière d'écrire d'Huberis, tout comme dans sa manière de parler. C'est publié au Seuil. J'ai vu une fleur sauvage. Quittons cette poésie pour retrouver Daniel Morat. Ah bah ouais, c'est le chaud et le froid, quoi.
Attention, mesdames et messieurs, c'est l'événement littéro-photographico-floral de l'année. Le dernier livre d'Hubert Reeves. Hubert Reeves, l'astrophysicien le plus hype, le plus swag du monde. Un livre événement intitulé « J'ai vu une fleur sauvage », 240 pages, plus de 600 photos pour seulement 18 euros. Non, vous ne rêvez pas, pour 18 euros seulement, un morceau de rêve imprimé qui vous accompagnera tout le printemps et vous permettra de vous y retrouver dans l'univers des fleurs qui nous entourent. Courez chez votre libraire, jetez-lui vos 18 euros à la gueule et dévorez le dernier Hubert Reeves « J'ai vu une fleur sauvage ». Ça ne changera pas votre vie, peut-être, mais ça la rendra plus belle, c'est sûr. À moi, quand il faut faire de la promo, je ne fais pas semblant. J'y vais. Et avec ce que je viens de dire, vous allez en vendre des camions de « J'ai vu une fleur sauvage », Hubert. Des camions, vous allez en vendre. Et c'est mérité. Il est beau, ton livre, Hubert. Oui, je te tutoie, j'aime les fleurs, moi aussi, donc ça me rapproche. Et tes fleurs, elles m'ont fait rêver, Hubert. La balsamine glanduleuse, une fleur qui pète, page 27.
C'est vrai.
Ouais. La centaurée jacée, une herbe d'amour, page 69, bien sûr. La chilidoine, l'herbe aux verrues, page 73. L'oseille des prés, régal des pharaons, page 137. Et c'est vrai, moi le seul égyptien que je connais, c'est Claire, il aime l'oseille. Il adore ça même. Alors d'aucuns diront, comme Nagui avant que vous arriviez, Hubert, pardon, avant que tu arrives. Oui, ce livre, c'est du Rikazaraï, c'est pour apprendre à faire des tisanes et des lavements, ça sert à rien ce bouquin. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve que c'est très exagéré. Oui, baissez la tête, Nagui, vous pouvez baisser la tête.
Tu parles.
Moi, j'ai beaucoup
appris. Je laisse passer la tempête.
J'ai beaucoup appris à la lecture de votre chef-d'œuvre, j'ai pas peur de le dire. Depuis que j'ai lu ce livre, ma vie a changé, je ne suis plus le même, je suis devenu fleurophage. Je me régale. J'ai retrouvé un teint de pêche, une ligne de jeune vierge. Moi, maintenant, le matin, au petit déjeuner, petit jus de pissenlit, tartine de confiture de prime vert et hop, je suis prêt à affronter le monde. Ma journée commence. À midi, petite salade de reine des prés, yaourt de myosotis, et tout va bien. Pour le goûter, deux tranches de cake de cyclamen. Et le soir, potage de laurier cornulé, rondade de pâquerette, clafoutis de verge d'or et tisane de ficaire. Bien sûr, juste avant de me coucher, un petit joint de shit, histoire d'oublier que j'ai toujours la dalle. Voilà, voilà. Voilà, Hubert, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour la France, ce que tu fais pour le monde, ce que tu fais pour l'univers et surtout ce que tu fais pour moi. À demain.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Et je confirme, Hubert, vous n'êtes pas rendu compte que page 69, vous parlez de l'herbe d'amour ?
Non,
vous n'avez pas fait attention à ça.
Non, je n'ai pas fait attention. Merci de le signaler.
Si je peux aider.
Puisque quelques candidats prônent la dépénalisation du cannabis et que ça reste une plante, quelle est votre opinion là-dessus?
C'est un problème compliqué sur lequel je n'ai pas envie de m'engager. A priori, je suis plutôt pour, mais je sais que ce n'est pas si simple.
Oui, et que ça fait aussi du mal. Mais
oui.
L'inconvénient, c'est qu'il y a aussi des voyous et des mafieux qui se servent.
Des entrepreneurs
qui se servent de cette loi pour faire du marché au noir et pour tuer, assassiner, voler et rendre les mecs dingues aussi. C'est
au
vrai.
Québec, ça porte un nom, ça s'appelle le PFH.
C'est-à-dire ?
C'est le putain de facteur humain.
J'adore. C'est signé Uberis.
Quand c'est scientifique, ça passe.
C'est lui qui s'est dit, ça passe. C'est lui qui l'a dit, pardon. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadroboudadi pour Uberis.
Je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Hubert.
Je pense que d'être en politique, je détesterais certainement.
Pourquoi?
Je pense qu'il faut être cinglé, hein, disons les choses.
Il faut être cinglé pour faire de la politique, c'est ce que vous avez déclaré au micro de France Inter dans la matinale.
Pour être président.
Ah bah voilà. Ça tombe bien, il y en a quelques-uns de cinglés. Donc oui.
C'était en 2016, donc c'était très récent. Hubert Reeves, président, admettons, imaginons. Mm-hmm. Imaginons, vous avez réussi à réunir les 500 signatures, vous vous présentez, mm-hmm. vous êtes élu au premier tour, rêvons. Quelle serait votre première décision en tant que président de la République française?
Alors, globalement, je peux la dire en une phrase, c'est d'arrêter de saccager la planète. C'est le problème que nous avons tous. Les êtres humains sont très intelligents, font des machines fantastiques, mais sont en train de rendre la planète invivable. Donc, si nous n'arrêtons pas, nous disparaîtrons. C'est simple.
Et ça veut dire arrêter de saccager la planète, prendre des mesures.
Voilà. Alors, quelles mesures en pratique exactement? Moi, je crois beaucoup à la taxe carbone. Mm-hmm. Elle a failli être installée. Je crois beaucoup. C'est que chaque transition de pétrole ou de charbon soit taxée. Ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un pays. Si la France décide de le faire, elle se met dans une position mauvaise par rapport aux Chinois, parce que les prix vont monter. Mais je pense que l'idée d'avoir une gouvernance mondiale, et ça, ce n'est pas un rêve, parce qu'on a la première étape avec la COP21. La COP21, le dernier jour, c'est un jour historique. C'est la première fois que l'humanité dans son ensemble se met d'accord.
Ouais, mais
191 pays décident d'un commun accord qu'il y a un problème.
Depuis, il y a Trump qui a été élu.
Oui, ça c'est vrai. Là, il y a ce problème. Bien sûr, c'est pas simple. Mais c'est déjà une manifestation de la possibilité que l'humanité puisse décider qu'il y a un problème. Ce problème, c'est que nous sommes en train de réchauffer la planète. Il faut arrêter de la réchauffer. Voilà. Ça, déjà, c'est un point important. Comment on va faire? Ça, c'est un autre problème. Ça va être compliqué. Il y aura des Trump, il y aura des Poutine ou autres qui seront pas d'accord, c'est sûr. Là aussi, on est dans le PFH.
Ouais.
Voyez, c'est ça. qu'il faut continuer à gérer.
J'aime beaucoup le PFH, je vais me faire un t-shirt.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, Hubert Reeves, pour justement éviter de saccager la planète? On parle beaucoup des gestes, des petits gestes qu'on peut pratiquer au quotidien, encore une fois. Vous, qu'en est-il?
Bon, moi, j'écris des livres, des articles.
Et mais vous écrivez des livres sur du papier. Le papier, c'est du bois, le bois, ce sont des forêts.
Recyclé.
Ah, d'accord.
Okay, on a imposé au seuil. Mes livres sont sur papier recyclé.
Formidable.
Donc, l'écologie, c'est pas un grand problème, c'est un million de petits problèmes. Mm-hmm. Ça se monnaie en des choses concrètes. Est-ce que vous prenez du papier recyclé? Est-ce que si, est-ce que ça? Et ça, il y a plein de bouquins dans les librairies.
Est-ce que vous prenez une douche ou plutôt qu'un bain? Est-ce que vous fermez l'eau du robinet quand vous lavez les dents?
C'est ça, les gestes quotidiens. Je ne me prétends pas exemplaire, mais j'essaie.
Mais on peut tous...
C'est le fait d'essayer, bien en sûr. Fait. Oui, déjà d'avoir fait. Envie de vous parler de cet enthousiasme commun au niveau mondial. Oui. C'est aussi ça qui régit un peu notre quotidien.
C'est de réveiller l'enthousiasme pour dire il faut sauver cette planète, il faut sauver l'humanité. C'est la tâche numéro un.
On poursuit avec un autre son, Hubert.
Hubert Reeves, vous êtes un astrophysicien. Ça m'apparaît très scientifique, cette histoire-là. Étant, je pense, un scientifique, je pense, un homme qui est plutôt intéressé au monde de l'explicable.
Eh bien, c'est sûr que la science en tant que telle, et l'astrophysique en particulier, a comme objet immédiat d'essayer de comprendre les choses. Mais comprendre les choses, ça ne veut pas nécessairement dire seulement les expliquer quantitativement.
C'est un document assez rare qu'on vient d'entendre, pour une raison précise, parce que c'est votre première interview à la télé.
Ah bon ?
C'était en 72 pour la télé Radio-Canada. Une interview qui n'avait pas été diffusée à l'époque parce que la qualité de l'enregistrement n'était pas assez bonne. Donc on a réussi avec toutes les équipes de la bande originale à retrouver ce document pour vous le faire entendre aujourd'hui.
Vous ne l'avez jamais entendu?
Non. J'ai voilà. Aucun souvenir.
C'est un cadeau.
Et ben c'est vraiment...
On va vous le vendre.
18 euros.
Ouais, c'est recyclé aussi.
C'est vraiment le début de votre histoire, en fait, avec les médias. Pourquoi ? Parce que je trouve que vous entretenez un rapport très, très chaleureux avec les médias. Les médias vous aiment beaucoup, on aime beaucoup vous entendre et on vient d'apprécier la qualité de votre expression et la clarté aussi de vos idées. Je me demandais quel était, vous, le rapport que vous entreteniez avec ces médias dans l'autre sens.
Moi, j'ai la chance d'être connu. Et que je pense que quand on est connu, on a une responsabilité, c'est-à-dire de faire passer des messages. Parce que si vous êtes connu, les gens vous écouteront plus que si vous n'êtes pas connu. C'est simple. Donc ça donne une responsabilité de s'adresser à des causes valables. Et c'est en ce sens-là que je suis content quand on m'invite. Et merci encore à nouveau à notre ami de m'avoir invité. Je suis content justement d'avoir cette occasion de faire passer des choses qui me paraissent importantes.
C'est une caisse de résonance qui est essentielle dans le combat que vous menez.
Absolument, totalement, totalement essentielle.
Et je finis juste par un petit cadeau, parce qu'en fait, quand je vous vois, Hubert Reeves, je pense à un autre homme, je pense à l'abbé Pierre.
Ah oui.
Parce que, voilà, c'est Le combat continue, c'est un bouquin qui vient de sortir aux éditions Les liens qui libèrent.
C'est aussi la douceur de la voix qui fait ça,
ouais, y a quelque
et le
chose,
propos et les valeurs.
Oui, il y a quelque chose d'assez proche. On parle d'humanisme, quelle que soit votre spécialité, vous, dans l'astrophysique. Ce sont 10 propositions pour lutter contre la pauvreté. Ça serait sans doute pour l'abbé Pierre sa première mesure s'il était élu président de la République et s'il était encore de ce monde. C'est pour vous.
Merci.
Hubert Reeves publie son livre « J'ai vu une fleur sauvage », c'est au seul. Il l'a dit tout à l'heure, les décoctions de saule, ça fait du bien à la tête. Eh bien, saule fait du bien à la tête. Le voici avec D-Love en live dans la bande originale.
La mèche
Love. C'est vrai que ça fait du bien à la tête. C'est vrai. Décoction de soul, ça fait du bien à la tête. Did Love Song, c'est sur l'album de soul qui s'appelle L'Éclaircie. Album sur lequel il y a également...
Aux arbres et aux feuilles qu'on respire, à ton âme qui peut repartir, à mon cœur plus léger qu'une plume, aux caresses qu'on se donne sous la lune.
Et puis une chanson qui devrait aussi vous plaire, Hubert Reeves, il y en a une qui s'appelle Respire. L'album a été produit par... Il y a une plante...
Et oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être là.
Peut-être la grande berce ou la carotte sauvage, c'est difficile de dire.
Voilà, sur la pochette de l'album de Soul, qui est en tournée le 25 mars, il sera à Porte des Valences, le 4 mai à Saint-Herblain à Nantes, le 5 mai à Talence près de Bordeaux, le 21 octobre au Théâtre Municipal d'Anzin, et il ne fallait pas oublier, le 25 mai à Lille, l'album s'appelle... L'Éclaircie. Et c'est justement un rayon de soleil que de vous avoir avec nous. Merci mille fois, Hubert Reeves, d'être venu. J'ai vu une fleur sauvage publiée au Seuil. Si vous aviez un conseil, une dernière valeur à nous faire partager ou à nous communiquer, que diriez-vous?
Alors, je dirais aux parents qui ont des petits-enfants, amenez-les dans la nature, montrez-leur que ça vous plaît. C'est pas la peine de faire des discours. Les enfants sentent ce que les parents aiment et c'est contagieux. Et là, vous en ferez plus tard des défenseurs de la nature.
Il y a de la vie dans chaque plante, qu'elle soit sauvage, qu'elle soit absolument, un buisson. Absolument. Et cette vie-là, avec la biodiversité, est très importante.
Absolument.
Merci mille fois, Hubert Reeves. On a des excuses peut-être à présenter avant de se quitter, d'ailleurs.
Évidemment, désolé pour Patrick Cohen, Kathleen Evin, Nicolas Demorand et tous les autres gros fumeurs de joint de France Inter qui, en entendant Hubert Reeves, sont venus en nombre dans le studio pour devenir amis avec des fleurs. Désolé les amis, on parlait jardinage, pas défense. Désolé pour tous les acacias qui nous écoutent et qui ont été dégoûtés qu'Hubert Reeves balance leur secret de défense. Ouais. Il est balancé à nos auditrices gazelles. Bah, c'est comme ça, c'est une radio de délation. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé pour tous les cyniques, les salauds, les despotes et autres fans de Nagui qui nous écoutent. Hubert Reeves, ce matin, nous a donné une leçon de vie. Comme bien sûr, personne ne va rien faire, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu quand on va tous crever.
Merci Daniel, merci Hubert Reeves. Demain, c'est Isabelle Mergaux qui sera notre invitée. Portez-vous bien et revenez, mais quand vous voulez.
Ah, merci. Soyez toujours le bienvenu. Gentil, j'apprécie votre invitation.
Nous passons des fleurs à la campagne. C'est pas un joli programme, ça, sur Inter, avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour à tous. Salut. Bonjour à Hubert Reeves.
Extraordinaire Philippe à chaque fois.
Ouais, mais Hubert qui a fait le bon choix de résider en Bourgogne. Bravo, ouais, merci. Ouais.
À Malicorne. Voilà,
qui n'était pas objectif, Philippe.
Si. Non.
Non.
Et
non.
Pour les pets de vache, en 2014, le toit d'une étable en Allemagne avait explosé. Suite aux flatulences des 90 vaches qui étaient dans l'étable.
Je suis désolé pour l'agriculteur, mais ça me fait rire quand même tellement c'est dingue.
On pourra peut-être mettre un bouche.
Non,
ça marche pas.
C'est compliqué.
Ça fera champagne. Bonne émission, Philippe.
Salut les amis.
Merci. Salut. Ciao.